Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité, votre émission d'actu quotidienne locale. Il est 18h et vous êtes bien sur Prune 92 FM. C'est Antoine qui vous parle et je suis ravi d'être hôte pour l'émission de ce soir. Que vous soyez dans votre voiture, au travail ou que vous vous enfilez des saucissons à l'apéro, eh bien je crois que l'émission est faite pour vous. Nous allons passer une heure ensemble pour discuter, partager de la musique, parler cinéma mais également zone de confort. Au menu de ce soir, interview, chronique et anecdotes. Et comme la semaine dernière, je vais vous apprendre quelque chose pour commencer l'émission. Dans quelques semaines, je vais prendre l'avion direction Soleil et je suis tombé sur une petite info, l'origine du mot Mayday. Les pilotes de ligne en détresse signalent aujourd'hui qu'ils ont un problème en prononçant trois fois le mot Mayday. Et contre toute attente, cette expression tient son origine de la langue française. Dans les années 20, un pilote français en vol direction l'Angleterre s'est trouvé en difficulté. Ne sachant pas comment signaler sa détresse, il prononce « Venez m'aider ». Et vous le voyez venir, son message fut reçu par un opérateur britannique qui a compris Mayday à la place de Médée. À la suite de cette confusion, en 1927, la Convention internationale de radiotélégraphie de Washington rend officiel l'usage de cette expression pour les transports aériens et maritimes. En cas de détresse, les pilotes doivent répéter trois fois Mayday, Mayday, Mayday. Bon, j'espère que je ne vais pas entendre ce mot une fois quand je serai confortablement installé dans mon siège. Bref, c'était tout pour cette petite histoire et je vous donne tout de suite le programme de Curiosité d'aujourd'hui, comme d'habitude concocté par notre équipe de choc. Pour commencer, vous allez retrouver le grand entretien avec Perrine. Ce soir, elle reçoit Adèle, Anne et Alex qui viennent nous faire un retour sur les manifestations à Sainte-Soline contre les méga-bassines. Bonsoir à vous quatre.
Bonsoir.
Bonsoir.
On retrouvera comme d'habitude la chronique ciné de Morgane, le quatrième mur. Salut Morgane.
Salut.
Au milieu de cette émission, ce sera le temps du Zoom Actu où Chloé... avec Chloé, son invitée de ce soir, c'est Sandra Todorovitch, fondatrice des éditions Zétoulu, dont la volonté est de rendre accessible la lecture aux jeunes dyslexiques et allophones notamment. Salut Chloé.
Salut.
Nous finirons en beauté cette émission avec la chronique La Villa Locale d'Elena. Il y aura la fameuse pause cadeau avec Elena encore une fois. On démarre sans plus attendre avec Perrine et ses invités. Vous êtes sur Prune, il est 18h04 et le grand entretien, c'est maintenant.
Curiosité. L'entretien.
L'heure est grave et on ne peut aujourd'hui rester ni muet ni de marbre lorsque l'on apprend que des manifestants sont entre la vie et la mort alors qu'ils venaient défendre l'idée d'un monde meilleur. Inacceptable, intolérable, insupportable, insoutenable. On parle de violence ? Eh bien ça c'est violent. Briser les rêves de milliers de citoyennes et de citoyens, ça c'est violent. Intimider pour tenter d'empêcher toute manifestation alors que c'est notre droit le plus strict, notre liberté d'expression, ça, c'est violent. Utiliser l'argent public, notre argent, pour payer des hommes afin de nous tirer dessus, sans nécessité ni retenue, ça, c'est violent. Et c'est très mauvais signe pour notre démocratie. Je me permets d'utiliser le « nous », car oui, moi aussi, je suis citoyenne en ce pays, et cela nous concerne toutes et tous, et devrait logiquement toutes et tous nous consterner. La démocratie, par définition, c'est précisément le pluralisme, l'hétérogénéité, la diversité et l'acceptation de ces différences de point de vue, d'opinion, de vision du monde. C'est ce qui fait la vitalité d'un pays démocratique. Le dissensus, par opposition au consensus, c'est ce que Machiavel, philosophe humaniste du XVe siècle, appelait le tumulte, la base de toute démocratie qui se respecte. Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'il se passerait si on ne déployait pas autant de moyens hallucinants à tenter de réprimer des mouvements contestataires légitimes ? Eh bien, c'est ce que j'aimerais que celles et ceux qui parlent sans cesse de casseurs ultra-violents découvrent ce soir. Adèle, Alex et Anne étaient dans les Deux-Sèvres ce week-end pour participer à un rassemblement de grande ampleur contre la construction d'une méga-bassine à Sainte-Soline. Bonsoir à vous trois et bienvenue sur Prune.
Bonsoir.
Merci.
L'idée ce soir n'est pas de se focaliser sur la brutalité sidérante à laquelle vous avez eu affaire, mais je tiens malgré tout à préciser que vous parlez ce soir au micro de Prune sous des pseudonymes, afin que la répression que vous avez subie en groupe n'atteigne pas votre vie privée. Vous êtes trois devant moi, Adèle, Alex et Anne donc, notre triple A du soir. Vous êtes venus témoigner de ce que vous avez vécu et nous faire un retour d'expérience. Pouvez-vous déjà simplement peut-être donner votre âge et la raison pour laquelle vous vous êtes rendus à ce rassemblement ?
Je vais commencer. Donc moi c'est Anne, j'ai 28 ans. Et si j'ai participé à la manifestation, c'est parce que, en tant que citoyenne, je me sens concernée, notamment après les épisodes de sécheresse récents, par la question de la préservation de notre bien commun qui est l'eau. Voilà, pour rejoindre un peu les rangs de ce combat, c'était avant tout pour ça.
Adèle ?
Alors moi, j'ai 20 ans et je suis allée à Sainte-Soline ce week-end parce que je suis originaire donc, de la Vienne, donc juste à côté des Deux-Sèvres. Et depuis que je suis toute petite, mes parents ont évolué dans le milieu militant, surtout en faveur de l'agriculture paysanne, favoriser les petits maraîchers. J'ai été sensibilisée très tôt à ça. Et donc, c'est vrai que les méga-bassines, ça a tout de suite été une aberration pour moi. Et j'ai senti que c'était le moment de m'engager, moi, personnellement, justement, en tant que citoyenne.
Alex ?
Et moi, j'ai 38 ans. Je suis originaire des Deux-Sèvres. Donc aussi concerné par le territoire sur lequel ça se passe. Et je suis militant et intéressé de près par les questions écologiques. Et on est face à une aberration écologique énorme. Et ça me semblait important de montrer qu'on est nombreux dans ce cas à vouloir défendre une cause juste, une cause qui appartient à tout le monde, qui est l'eau. Comme ça a déjà été dit, voilà.
Alors, Sainte-Soline, ça se situe à 50 km de Niort, à 2 heures de Nantes en voiture. Combien de temps avez-vous personnellement mis pour vous rendre sur place et quand êtes-vous parti ?
Alors nous, on était malins, on essayait d'éviter les barrages de police. On était un peu, on avait des moyens de se tenir au courant aussi de comment était la situation sur place. Donc on a réussi arriver sans trop d'encombre de notre côté en partant à 19h, on est arrivé à 22h.
Ça, le vendredi soir.
Voilà. Le vendredi soir, avec de la boue jusqu'aux genoux parce qu'il pleuvait des cordes dans le champ où nous étions, où nous campions. Voilà. Et comme on arrivait tard, je pense que les policiers étaient allés se coucher, peut-être aussi. Donc voilà, on a eu assez de chance.
Tu parles de barrage de police, vous étiez donc informé, il y avait un réseau qui s'était créé pour vous informer de tout ça.
Pour favoriser l'arrivée de tout le monde. Sans trop d'encombre, quoi.
Toi, Adèle ?
Moi, ça a été un peu différent. Donc, je suis partie de Nantes le vendredi soir et je suis allée chez mes parents, donc du côté de Châtellerault, dans la Vienne. Et on est parti de chez mes parents le samedi matin à 7h pour rejoindre à 8h le convoi de Poitiers. Et de Poitiers, il y avait, donc j'arrive pas à me rendre compte au niveau chiffres, mais il y avait beaucoup de monde qui est parti. Donc, on a fait tout le trajet en groupe jusqu'à Vanzay. En suivant justement un convoi, on roulait à 30 sur la nationale, c'était le bouchon le plus chouette de ma vie. Et donc nous, pour le coup, on a fait face à des barrages aussi, mais ils nous ont laissé passer, je pense, au vu du nombre qu'on était.
Ils étaient moins nombreux que vous.
Ouais.
Un blocage non efficace.
Et nous, on est parti le vendredi soir de Nantes. On a mis, normalement, on devait mettre 2h30 et on a passé une demi-heure. Donc pareil, on était informés avec les outils qui avaient été mis en place par les organisateurs. Et aussi, j'étais sur Waze, toutes les deux secondes, en train de voir où est-ce qu'un barrage ou un contrôle avait été signalé, alors qu'en fait, on n'avait rien à se reprocher, à part d'avoir juste des équipements de protection minimes, quoi. Et on a mis une demi-heure de plus, parce qu'on voulait éviter Mel et tous les barrages, parce qu'on était hébergé un peu au sud de Mel. Et donc, on s'est pris des toutes petites routes. On est passé par Chef Bouton, on a appris le lendemain que c'était la base arrière des CRS. On a traversé la ville sans encombre, un peu par miracle.
Ils ne se doutaient pas que vous alliez passer par là.
Ils ne savaient pas, on ne leur a pas dit.
Non, mais ça montre bien déjà qu'on a quand même déjà essayé de vous bloquer avant même d'arriver sur les lieux. Alors, pour resituer un petit peu la cause, en quelques mots, les méga-bassines, c'est quoi ?
Moi, si
quelqu'un
je
ou quelqu'une vient y aller.
Donc, les méga-bassines, c'est des énormes cratères qui sont donc creusés au milieu des champs, au-dessus des nappes phréatiques. Et l'idée, donc, c'est des cratères qui représentent, je crois que c'est quelque chose comme, je ne sais plus si c'est 14...
10 terrains de foot.
Oui, voilà, ça doit être 14
hectares. C'est minime, c'est en moyenne 8 hectares.
Enfin, c'est énorme, c'est avec des trucs qui font 10 mètres de profondeur. Donc, c'est impressionnant de s'imaginer ce que ça représente en quantité d'eau. Et l'idée, c'est de pomper les nappes phréatiques l'hiver pour pouvoir arroser l'été, parce que l'été, il y a des restrictions d'eau qui font qu'on ne peut plus pomper l'eau. Donc, en fait, finalement, en les stockant, l'eau, en fait, c'est une accaparation de l'eau pour très peu de monde, finalement, parce que ça concerne surtout l'agro-agriculture. Il y a effectivement, on peut pallier une toute petite partie qui est censée être concernée pour des agriculteurs plus petits. Mais l'idée, en fait, c'est de totalement privatiser l'eau. On sait qu'on tend vers de plus en plus de sécheresse Et du coup, bah, c'est la solution miracle qu'ils ont trouvée en se disant bah, si on pompe l'eau l'hiver, on aura de l'eau l'été.
Tout en prétendant que ça allait servir à recueillir l'eau de pluie
essentiellement. Oui, voilà, c'est ça. Mais même au-delà de ça, un des gros problèmes, c'est que l'eau des nappes phréatiques, c'est de l'eau donc, qui est très très saine. Et l'eau, en les pompant et en les stockant dans des bâches en plastique, ça la pollue. De par déjà le soleil qui favorise
l'évaporation,
les microbactéries aussi, les algues, et le microplastique des bâches qui se...
Oui, ça fait des eaux stagnantes, contrairement à c'est dans les nappes phréatiques ou les cours d'eau. Parce que vous l'avez dit, donc c'est des grands cratères creusés, et puis ils sont non seulement artificiels, mais plastifiés, imperméables. Du coup, l'eau ne s'infiltre plus dans les terres, et ça prive les écosystèmes environnants d'une ressource vitale.
Voilà, c'est ça. Et puis, il y a aussi des problèmes, du coup, en enlevant l'eau. L'eau, c'est aussi un moyen de sécuriser le terrain, c'est-à-dire que si on enlève l'eau, il y a des trous, donc ça veut dire aussi après des affaissements de terrain. Enfin, il y a tout un tas de problèmes qu'on n'imagine pas qui découlent, en fait, de tout ça.
Alors, c'est en toute bienveillance que les membres de l'équipe de Curiosité du mercredi vous reçoivent ce soir. Je tiens à préciser à nos auditrices et nos auditeurs que nous ne portons ni gilet pare-balles, ni casque, ni matraque, ni bouclier, et qu'au Grenade et Flashball, nous avons préféré vous tendre un micro. Un rassemblement qui réunit spontanément 30 000 personnes venues de toute la France, mais aussi d'autres pays européens, cela implique une organisation logistique hors pair. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez trouvé sur place ?
Alors déjà, beaucoup de monde et beaucoup de monde très diversifié, c'est ça qui était assez fort, je pense, quand même, dans ce rassemblement. C'est qu'on avait un combat qui est paysan, donc c'est porté aussi par la Confédération Paysanne. Il y avait énormément de paysans sur place, il y avait des tracteurs qui étaient là, une cinquantaine de tracteurs qui étaient arrivés de toute la France. Il y avait des élus, il y avait des mouvements politiques, il y avait des citoyens, comme vous et moi. Il y avait énormément de gens différents, des familles, etc., des jeunes, des vieux, etc. Donc c'était déjà une énorme arrivée. Et ensuite sur place au niveau de l'organisation, donc nous on était, je suis restée du vendredi soir au dimanche soir. Donc on a pu être hébergés sur un terrain privé, un énorme champ le vendredi soir.
Vous avez
donc
tous campé.
Ouais, on a campé sur place. C'était rustique, mais c'était très bien. Et donc on avait des installations qui avaient réussi à ramener par exemple des toilettes sèches. Donc je ne sais pas par quelle logistique, j'étais pas là à ce moment-là, mais c'est assez fou déjà d'avoir réussi à faire ça au regard de l'interdiction, de tous les barrages de police, etc. Enfin, c'était une orga de dingue.
Et il y avait aussi une cantine pour 30 000 personnes.
Il y avait une cantine, il y avait beaucoup de gens à la base arrière qui étaient très impliqués. Alors, je suis pas locale moi, mais j'ai l'impression que localement c'est un combat qui est très porté aussi et qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent. Donc c'était vraiment. On était accueillis aussi par la ville de Mel qui a franchement un courage énorme aussi parce qu'elle se met clairement l'État à dos en faisant ça. Donc le samedi soir, on est tous retournés à Mel et on avait des concerts. Il y avait aussi un moment un peu festif pour conclure ce moment-là et le dimanche des conférences, etc. Enfin, plein de choses organisées par l'équipe d'organisation.
Une organisation absolument incroyable. Mmh. Pour continuer sur cette terre joviale de rassemblement enthousiasmant, je laisse à présent la parole à Michel Fugain et le Big Bazar sur une musique de 1973 intitulée « Les gentils, les méchants », toujours fort d'actualité 50 ans plus tard. Je vous invite à écouter attentivement les paroles et on se retrouve tout de suite après.
Qui c'est qui est très gentil ?
Les gentils.
Qui c'est qui est très méchant ?
Les méchants.
Les économies,
les gentils,
et qui gaspille son argent,
les méchants,
qui c'est qui vend des fusils,
les gentils,
qui c'est qui se retrouve devant,
les méchants,
c'est comme un guignol spectacle permanent. Pour qui t'as de l'antipathie,
les gentils.
Pour qui t'as un gros penchant,
les méchants.
C'est travail, famille, patrie, les gentils. C'est la retraite à 20 ans, les méchants. Oh.
samedi.
Déjanté.
Ils font ça n'importe quand, les méchants. Ils craindront le cul béni, les gentils. Ils craindront le cœur content, les méchants.
Vous venez d'écouter Les Gentils, les Méchants de Michel Fugain et le Big Bazar, titre sorti en 1973 et repris par Gérald Darmanin fin 2022 pour promouvoir sa loi Asile Immigration. Je le cite, nous devons être gentils avec les gentils et méchants avec les méchants. Et toc. Eh bien, comme Michel Fugain, les méchants pour lesquels nous avons un gros penchant s'appellent ce soir, le temps de l'émission, Adèle, Alex et Anne, et nous font un retour sur l'expérience qu'ils ont vécue à Sainte-Soline ce week-end lors d'une mobilisation contre la construction d'une méga-bassine. Cette mobilisation du week-end, justement, dans quel état d'esprit étiez-vous avant de vous y rendre ?
C'est un peu spécial parce que le gouvernement avait déjà décidé que ça allait être un événement violent, en fait. Donc, toutes les personnes que j'ai vues et toutes les personnes qui ont participé étaient dans un état d'esprit festif, mais au fait que ça allait être dur. Et par exemple, j'ai jamais vu autant de personnes avec autant d'équipements de protection sur place. Enfin, il n'y a pas une personne qui n'avait pas au moins un masque et des lunettes. Et, ce qui est un équipement minime, hein, un masque, des lunettes et un cahouet quand on a en face des gendarmes surarmés. Des CRS avec des armes de guerre, mais il y avait un niveau de préparation qui reflétait la violence qui avait été annoncée et qui avait été prédite, quoi.
Et la violence de ces dernières semaines aussi, et de la mobilisation. Enfin, clairement, c'était clairement dans la continuité. Et
de la mobilisation de la réforme contre la retraite.
Oui, c'est ça, il y a tout un climat autour de ça, mais j'ai l'impression, en tout cas moi, d'avoir aussi un truc justement de cette conscience qu'on allait se faire détruire, parce qu'on nous avait vendu ça en nous disant « ça va être violent ». Donc c'est quand même bizarre, ça fait un peu, de se dire on y va, on sait qu'on va se faire taper dessus. Donc il y avait un truc hyper pragmatique avant d'y aller, de se dire ok, bah, je prends mon masque, je trouve, je fais tous les magasins de bricolage pour avoir un FFP3, sauf que tout le monde fait la même chose, donc il n'y a plus de FFP3. Il y a eu une pénurie de bleu de travail sur Nantes, c'était hallucinant. Mais ouais, je pense que, moi en tout cas j'ai vécu ça, il y avait un truc très ok, on se prépare, mais pas quand on se prépare comme on devrait se préparer pour aller faire la fête dans un champ, quoi. C'était...
Ouais, c'est ça, ça fait un peu ambiance, on se rend à un festival avec toute la joie qui va avec cette émulation qu'on peut ressentir quand on va être ensemble de manière collective, et en même temps, cette crainte que vous évoquez avec obligatoirement de la protection emmenée avec vous.
Oui, un peu lunaire.
Sérum fille.
Ouais.
Et tout ce
beaucoup
genre de choses.
Beaucoup de sérum fille.
Des litres.
Alors, une fois sur place, à quoi ça ressemblait ? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de créativité, d'audace, d'union, de sens du collectif, tous unis, évidemment, pour la défense d'un bien commun qui est l'eau.
Oui, beaucoup de moments aussi de puissance, malgré tout. Des temps très festifs, tout, il y a beaucoup de gens qui chantaient, il y avait beaucoup de... il y avait des décorations de chars, des choses très chouettes. Oui. Complètement en décalage avec ce qui s'est passé le samedi. Je pense qu'on est tous rentrés clairement sidérés aussi par la répression qu'on venait de se prendre.
La tournure que ça a pris.
Mais malgré tout, il y a eu des moments très forts. Moi, j'y allais aussi avec ma chorale militante. Enfin, je suis partie d'une chorale militante et on a chanté le dimanche. C'était un moment hyper puissant. On était 50 sur scène. Ça nous a fait beaucoup de bien, je pense, après ce qu'on venait de vivre. Mais, donc voilà, un peu une alternance, un moment... que des choses très intenses, alternance de puissance, de choses très chouettes et de choses pas du tout chouettes.
Alors j'ai vu aussi qu'il y avait une course organisée qui s'appelait Bye Bye Bassine, qui était une course en trois cortèges. À peu près chaque cortège avait entre 5 et 10 000 protecteurs, hein, puisque ces manifestants, nous ici, on peut les appeler des protecteurs, qui avaient chacun leur totem, puisque visiblement la faune est menacée sur place. Donc il y avait trois équipes, les outardes de rose, les outardes, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit échassier local, les loutres jaunes et l'anguille turquoise. Est-ce que vous avez pu participer à l'un de ces trois cortèges ?
J'étais dans le premier, j'étais dans le rose, dans l'outarde. Et sur le chemin, on a regardé sur Wikipédia si c'était une outarde, parce qu'on ne savait pas ce que c'était en fait. Et donc le premier truc un peu marrant, c'était donc il y avait différents points de départ. Un qui partait du village et deux qui partaient du campement lui-même. Nous, on n'était pas sur le campement, donc on arrivait à se garer aux alentours du village, parce qu'il y a énormément de voitures partout, donc il a fallu s'éloigner un peu. Et donc le premier jeu, c'était de retrouver l'outarde, et donc tout le monde errait un peu. Où est le cortège rose ? On cherchait le cortège rose, puis tout d'un coup, l'outarde est arrivée.
Le fameux totem.
D'un chemin, comme ça. Ah, c'est ça, c'est génial. Bon, ben on y va. On prend le pas du truc et on suit Et on suit jusqu'aux bassines. Et c'était le cortège rose était le premier arrivé sur place. Et donc on aussi avec cette appréhension d'arriver devant le truc, ce truc énorme, monumental, gigantesque, de murs de terre, quoi. Et entouré, littéralement entouré de CRS.
Il y avait un truc très puissant justement dans ce cortège parce qu'on ne se rend pas compte en ville parce qu'il y a très vite les bâtiments qui bloquent et on ne voit pas combien de monde là. Là, il y a un sentiment de puissance quand on est au milieu des champs qu'il n'y a rien à perdre de vue, mais que même s'il n'y a rien à perdre de vue, on ne voit pas le début du cortège et on ne voit pas la fin non plus. On se dit là, parce qu'on ne se rend pas compte en fait en direct de combien de personnes il y a et il y a un sentiment de purée, ça a vraiment mobilisé. Mmh. Et ça, c'est... du coup, c'est avant d'aller se faire lacrymer la tête. Mais du coup, il y a ce truc de puissance énorme et de se dire... Enfin, presque d'euphorie, en fait, de se dire on est en train vraiment de faire un truc, quoi.
On se soulève, parce qu'une des trois organisations... un des trois collectifs, pardon, organisateurs de cette magnifique manifestation s'appelle Les Soulèvements de la Terre. Il y a aussi la Confédération Paysanne et Bassine Non Merci. Et notamment la Confédération Paysanne a planté 300 mètres de haies aussi pendant ce week-end et monté une serre maraîchère pour un paysan sur une parcelle proche. Donc c'est important de dire les choses, toutes les belles choses qui ont été faites pendant ce week-end malgré ce qui a suivi. Alors justement, ce qui a suivi, est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a le plus choqué, déçu, traumatisé, étonné, troublé ?
Les blessés. Moi, je sais que très vite, il y a un réflexe de survie, en fait, je pense, de vouloir se reculer. Et donc, je me suis retrouvée très vite un peu en arrière, avec du coup tous les blessés qui étaient devant, qui remontaient, tout le monde qui se met à crier médic pour signifier les différents endroits où il y a besoin d'aide. Sauf que tout le monde qui crie ça en même temps, de tous les côtés, on sent vraiment qu'il se passe des trucs pas drôles.
Alors, médic, on va juste préciser que ce sont des militants qui fournissent les premiers secours dans les manifs.
C'est ça.
Un peu la même chose. Moi, un moment qui m'a marqué, c'est. Alors, du coup, le cortège Outard, c'était le cortège le plus tranquille. Personne ne me voit, mais je fais des guillemets dans le studio. Parce que ça n'a pas été aussi tranquille que. Enfin, ça n'a pas été tranquille du tout. Et du coup, nous, mais quand même, l'endroit où on était, je pense qu'il y avait peut-être un peu moins de blessés, un peu moins de. Parce que peut-être moins d'avancées aussi. Donc, on essayait un peu d'occuper, je pense, le terrain. Moi, j'essayais d'avancer en bloc avec d'autres camarades sans trop. Se mettre en danger, mais c'était un petit peu... Voilà, on avait des grenades quand même qui explosaient autour de nous, mais je pense qu'on a pris... de l'autre côté, c'est là que les quads sont arrivés, donc moi, j'ai vu ça. Et c'est vraiment quand on s'est replié un moment, on a réessayé d'avancer, et là, en fait, l'organisation, avec clairement du désespoir dans la voix, nous a crié, il faut qu'on rentre, on ne peut pas, les médics nous disent, on ne peut plus prendre de blessés, plus de blessés, on ne peut pas risquer d'avoir plus de blessés, et ça, c'était, je pense, un moment hyper sidérant pour tout le monde, et on était un peu... Enfin, moi, c'est ce moment-là où j'ai réalisé l'ampleur du truc. Et même si je voyais qu'il y avait des blessés, je ne me rendais pas compte à quel point on était vraiment... c'était un carnage, je pense qu'on peut le dire, en vrai.
C'est ça. Moi, j'ai entendu parler de guérilla, de champ de bataille. Enfin, c'était des termes hallucinants. Alors, vous dites que les manifestants se sont repliés, je crois, au bout de 2 heures, du coup, parce que les médics, justement, étaient débordés par le trop grand nombre de blessés. Le SAMU a même été empêché d'intervenir sur place pour donner les secours pour les gens qui commençaient à être entre la vie et la mort. Alors qu'il y avait des médecins militaires sur place, la notion de non-assistance à personne en danger, le respect de la loi donc, est-ce que vous pensez qu'il ne s'applique pas aux forces de l'ordre?
Visiblement non, pas normal. Mais...
On vous envoie des quads, donc ça, je pense que c'est la fameuse Brave M, qui est la brigade de répression des actions violentes motorisées, qui a été créée lors des manifestations des Gilets jaunes. On les voit ressortir cette fois avec des quads.
Ça c'était super impressionnant, parce qu'en fait, le deuxième cortège qui arrivait, je ne sais plus si c'était le jaune ou le bleu, mais c'est fait charger direct en fait, par les quads. On avait l'impression que c'était un petit jeu pour les forces de l'ordre, quoi, d'aller tester leur nouvel équipement et de déambuler avec leur quad à fond et d'aller charger et gazer au hasard le cortège qui arrivait, quoi.
On peut quand même préciser qu'il y avait a priori 3000 militaires appuyés par des fonctionnaires de la police nationale, sachant qu'ils avaient prévu à peu près 6000 manifestants. Ça fait
un ratio assez, assez impressionnant. Ouais.
Puis ce qui est hallucinant dans leur façon d'agir, c'est que en fait, en différence, avec la différence avec les manifestations en ville, là, c'est des champs. Donc, ils n'ont rien à protéger. Donc, vraiment, ils tirent dans le tas. Il n'y a pas de « on protège la préfecture », on protège juste, ils balancent leurs grenades et ils s'en foutent d'où ça atterrit, quoi. Parce que c'est vrai que de la terre, globalement, après, c'est un champ, quoi. Donc,
Et puis l'état de droit, donc, c'est quand même un concept qui suppose dans un état la prééminence du droit sur le pouvoir politique, ainsi que le respect de chacun, gouvernant et gouverné, de la loi. Est-ce que dans ce cas-là, on peut parler d'un déni de l'état de droit ?
Complètement. Enfin, il y a eu tous les manquements, il y a eu énormément de manquements à la loi de la part des forces de l'ordre sur ce terrain. Enfin, rien que on parlait des quads, de tirer des LBD en mouvement, c'est complètement interdit. Et ça, c'est juste un exemple. Il y a un milliard de choses qu'ils ont faites qui ne sont pas du tout dans le cadre de la loi, mais comme c'est le cas dans depuis quelques années dans les manifs, depuis sans doute très longtemps, il y a clairement un non-respect de la loi et on a l'impression qu'il y a une impunité totale en fait, derrière. Donc là, c'était bien de voir. Enfin, je ne sais pas si je vais en parler, mais il y a eu un communiqué de la Ligue des droits de l'homme, parce qu'il y a beaucoup d'observateurs et d'observatrices sur place qui ont pointé dans leur communiqué tous les manquements. Et c'est vraiment accablant. Enfin, c'est accablant et c'est très précieux, je pense, d'avoir aussi des observateurs extérieurs qui en parlent.
Et puis on nous fait passer pour des radicaux, mais alors la radicalité après c'est aussi à définir. Mais on fait une description du militant qui fait peur. Mais il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, enfin des enfants, des ados, des personnes âgées. Enfin, il y avait quand même. Enfin, c'était pas non plus une menace pour un trou en terre, quoi.
C'est malheureusement la fin de notre entretien. Merci beaucoup Adèle, Alex et Anne d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir. Je rappelle que vous avez tous les trois participé à la mobilisation contre les méga-bassines ce week-end à Sainte-Soline, dans le département des Deux-Sèvres et dont le bilan désastreux n'a rien à voir avec le projet en question. Le projet n'est même pas évoqué dans les médias qui ont couvert le sujet. Paris gagné pour les défenseurs des méga-bassines qui ont choisi de détourner l'attention en accusant, comme à leur habitude, d'ultra les détracteurs du projet. Mais ce lourd bilan ne peut laisser personne indifférent. En à peine 2 heures, 200 manifestants blessés, dont 40 grièvement touchés, principalement par des éclats de grenades de désencerclement et des tirs de LBD, 2 blessés sont actuellement toujours dans le coma. Tout cela est le résultat d'un choix politique du gouvernement. Chères auditrices, chers auditeurs, si des poubelles qui brûlent ou des vitrines cassées vous effraient davantage que les blessures de vos propres enfants, frères ou sœurs, eh bien je vous invite à méditer à nouveau sur ce qui est essentiel à votre vie. La manifestation est précisément l'expression des forces vives d'une nation, l'expression de voix en colère, mais non encore désabusées. Ce qui entretient le feu se trouve bien du côté de la vie, de l'entraide et de l'espoir d'un avenir meilleur. Merci de porter à présent un autre regard sur les manifestantes et les manifestants qui prennent leur courage à deux mains pour défendre nos droits et notre planète à toutes et tous. Rappelez-vous bien de l'histoire. Sans ces poches de résistantes et résistants appelées terroristes par le gouvernement en place à l'époque, que serions-nous devenus ? La répression via les intimidations, les arrestations arbitraires et l'utilisation excessive d'une brutalité disproportionnée et non assumée n'est pas digne d'un État qui se dit démocratique, c'est-à-dire d'un État de droit, dans lequel le droit prévaut sur le pouvoir politique. Qui protège qui ? Qui protège les institutions ? Qui nous protège, nous, le peuple et la terre sur laquelle nous vivons ? Le conflit est peut-être critiquable, mais à partir du moment où le contrat social n'est plus respecté, il est surtout vital et fécond pour l'espace démocratique. Demain, jeudi 30 mars, rendez-vous devant toutes les préfectures de France en protestation au traitement fait aux manifestantes et aux manifestants. Une pensée particulière à Michael et Serge, toujours dans le coma à l'heure actuelle. Je conclurai par une petite question. Si l'État n'achetait pas de grenades, de flashballs et autres armes utilisées contre nous, n'arriverait-on pas à trouver les quelques milliards dont nous avons besoin pour sauver nos retraites ?
Merci Perrine, merci encore une fois Adèle, Anne et Alex d'être venus dans l'émission, d'avoir témoigné de votre expérience aux manifestations de Sainte-Soline. Ça fait clairement froid dans le dos. On enchaîne tout de suite avec Morgane, sa chronique cinéma c'est le 4e mur. Aujourd'hui, encore une innovation, Morgane va nous parler d'un film qui n'est pas encore sorti en salle. C'est maintenant sur Prune, il est 18h31.
Bienvenue dans 4e mur, votre chronique ciné du mercredi soir.
Alors oui, là on va changer complètement de sujet, mais la semaine dernière j'ai été voir The Film dont tout le monde parle. Celui qui devrait, je l'espère, et pour de vrai, sauver le cinéma français. Pas comme Astérix et Obélix dont on ne parlera pas dans cette chronique. Et ce film, c'est Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. À tous les nostalgiques de films de cap et d'épée, à tous ceux qui, comme moi, ont grandi avec Zorro le soir sur France 3, ce film est fait pour vous. De l'action, de l'aventure, de l'humour, tous les codes sont respectés. Bah alors, qu'est-ce que c'est un film de KPDP, me demanderez-vous, chers auditeurs et auditrices? Eh bien, c'est un genre cinématographique. Il se passe généralement des époques allant du Moyen-Âge à la veille de la Révolution française. Ils incluent souvent les guerres de religion et les règnes de Louis XIII et de Louis XIV. Les Trois Mousquetaires sont inspirés, bien évidemment, du fameux roman d'Alexandre Dumas père, oui parce qu'il y a un fils aussi. Dans ce genre, on retrouve aussi le fameux Cyrano de Bergerac, avec Gérard Depardieu pour la version cinématographique la plus connue. Et cette fameuse réplique, attention, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Bien joué, tu te souviens encore de tes cours de français. Ça y est, vous avez tous des souvenirs terribles de vos années collège. Top, maintenant on peut continuer. Alors, les Trois Mousquetaires d'Artagnan racontent l'histoire de... De qui ?
Les Trois Mousquetaires.
Ben non, de D'Artagnan. Eh ben, finesse, bon, 10 points pour Gryffondor de ce côté-là. Allez, donc D'Artagnan est interprété par le sublime, l'un de mes chouchous, François Civil, qui arrive à Paris pour intégrer les Mousquetaires. Donc, il rencontre alors Athos, joué par Vincent Cassel, Aramis, campé par un Romain Duris au top de sa forme, et Porthos, incarné par Pio Marmaille. Oui, il y a du très très beau monde au casting. D'Artagnan se retrouve donc vite empêtré dans des affaires de guerre de religion et de complot contre le roi Louis XIII, joué par Louis Garrel. Il va alors devoir défendre son pays tout en essayant de prouver son talent auprès des mousquetaires. Donc oubliez la vieille version des Trois Mousquetaires, ici on a un trio, ou plutôt un quatuor, totalement et même très modernisé. Alors c'est vrai que j'entends certains puristes qui diront « mais ils ont pas leur cap, ça enlève un charme ». J'entends, mais je vous assure que ce vent de modernité fait du bien. Les codes vestimentaires sont tout de même là. Perso, j'ai notamment adoré les chapeaux des Trois Mousquetaires, justement. Il est tenu de Milady, incarnée par une superbe Eva Green. Et oui, la méchante est une femme. Et en parlant de modernité, j'ai également aimé les rôles féminins, dont celui de Constance, interprété par la super Lina Koudry. Comme dans le roman, Milady et Constance sont deux femmes à fort caractère qui n'attendent pas que les hommes fassent leur boulot à leur place. Et oui, comme quoi, même au 19e siècle, les auteurs pouvaient écrire de bons personnages féminins malgré le contexte pas hyper féministe. Dans le film de Martin Bourboulon, elles ne sont pas juste deux pièces rattachées, elles s'imposent vraiment en tant que figure déterminante de l'histoire. Autre que cet argument, je ne sais que vous dire que le super trio que font Duris, Marmaille et Civil. J'avoue que j'inclus pas Cassel dans le groupe. Bon, parce que c'est peut-être celui qui m'a le moins convaincu. Mais j'attends le prochain film, qui sort d'ailleurs le 13 décembre 2023, pour ceux que ça intéresse, et sera intitulé Les Trois Mousquetaires Milady. J'espère donc qu'il sera centré sur son personnage, ça devrait lui donner une bonne chance de s'épanouir pleinement dans le rôle d'Athos. Alors à tous ceux qui disent que les films français, ça fait cheap et gne, celui-ci devrait vous en boucher un coin. Les superbes scènes d'action succèdent les magnifiques décors qui sont d'ailleurs réels. Le réalisateur a exprimé son envie de créer un film pour le grand écran et une image qui nous immerge un peu plus dans l'époque. Et c'est un pari complètement réussi pour moi. Croyez-moi, ce serait une énorme perte de le voir sur un écran d'ordi et je parle même pas de le regarder sur un téléphone parce que ça, c'est de l'hérésie, je ne l'accepte pas. Alors les Trois Mousquetaires d'Artagnan seront en salle le 5 avril et c'est à ne pas manquer, c'est ce mercredi. Et c'est si c'est toujours pas suffisant pour vous, pour que vous alliez au cinéma, voir François Civil en tenue d'époque pendant 2 heures, ça devrait vous convaincre.
Merci Morgane, je t'avoue que l'association Civil Marmaille, ça me donne très envie d'aller voir ce petit film. On passe maintenant à la pause cadeau où Elena nous réserve de belles surprises à gagner. C'est tout de suite sur Prune, il est 18h35. Ouais.
La pause cadeau.
Et aujourd'hui, Prune te propose de remporter des vinyles de Florio avec son album Out of Heart. Alors tente de gagner des places en nous envoyant un message sur l'Instagram de Prune. Et on retourne doucement pour la suite de l'émission avec le morceau Leash de Florio. C'est tout de suite sur Prune.
hard my cries. Sweet girl loving, not right now. You met something, not right now. Still single me out in the crowd. And I've been touring more. It don't even feel like labor, yeah, cause I love this one. Lost friends, but I won more hearts. Your top 10 had me there with stars. Don't you lean on me now, and I came up from B-town. Yeah, trying to drain me out. Energy suckers, can't you see I'm recharged? I'm on cruise the Niger way. Pray today I live by grace. With the rage, pause the game and let my sins all wash away. This. Most of my life been a hit or miss. Only one up and alive in bliss. They still won't tolerate my skin. Dream awake while the rest are scripted. Green slam down my system. Slam toward the line, my friends them. Boy, you're making me anxious. Mom said, bro, why you acting senseless? Kids get braggadocious. Just got high with some packs and potions. Loaded fries, I ain't talking portions. Two heads back, cause concussions up. Yeah, approach with caution. Such flare when I'm on controllers. Drop dead, bitch, I'm gorgeous. I just step, those shoulders flare. Eyes locked on me, I'm upstairs, you're the guest. Now you're gonna hate the shit that I'm the best, huh? Graduate from school, love for less, yes. Understand we walk through the rest right now, no reasons to be vexed. Put my awards up on the chest of drawers, you walked in all impressed. Never recline less, I'm in that murk. Speech and I going all berserk. Lean on me, even on my worst. Been best dressed and I still cause disgust. Maybe I'm chill, stop doing too much. I'm on that field, let's test my shot. Heard that you miss me, like I've been 16 when I left home, didn't call my mom.
Venez d'écouter Leash de Floyo. N'oubliez pas de participer pour gagner ces vinyles en envoyant un message sur le compte Insta de Prune. Maintenant, on retrouve Chloé pour ce deuxième entretien. Aujourd'hui, elle reçoit Sandra Todorovic, fondatrice des éditions Zetoulu, une maison d'édition qui met l'accent sur l'accessibilité de la lecture pour toutes et tous. Le Zoom Actu, c'est tout de suite sur Prune.
Curiosité. Le Zoom Actu.
Bonjour Sandra.
Bonjour.
Vous êtes donc la fondatrice des éditions Zetoulu. Cette maison d'édition indépendante et locale s'est donnée pour mission de rendre accessible et agréable la lecture au plus grand nombre, que ce soit pour les personnes dyslexiques, allophones, avec des troubles d'attention ou des primo-lecteurs. Et Zetoulu sera présent ce week-end au festival Demain au Solilab, une grande vente d'objets de seconde main pour fêter le réemploi solidaire. Partons de la création de Zetoulu, ce projet de livre accessible, d'où il part, de quel constat ou volonté? Vous êtes vous-même dyslexique, est-ce que ça vient de là, d'une expérience personnelle?
C'est exactement ça. En fait, je suis dyslexique, dyspraxique, et puis encore d'autres petits 10 parce qu'on n'est jamais 10 tout seul. 10 sur 10, on a des super bonnes notes. Et j'ai aussi 50 ans, et il y a encore 40 ans, on ne parlait pas de la dyslexie, et donc on s'en prenait quand même pas mal derrière les oreilles. Et j'ai d'abord été infirmière, et ensuite j'ai travaillé pour une maison d'édition associative, et c'est le cumul de ces deux casquettes qui ont fait que j'ai monté la maison d'édition ZTL Zetoulu pour pouvoir aider justement les personnes qui ont des troubles neuroatypiques comme moi.
Vous dites dans un article avoir voulu créer, je cite, « le chaînon manquant entre les livres classiques et les livres pour 10 qui n'étaient accessibles qu'à seulement 30% des dyslexiques ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
En fait, moi, je fais de la lecture confortable. Et la lecture confortable, effectivement, ça ne va pas être étiqueté pour les uns ou pour les autres. Ça va englober plusieurs choses pour aplanir les difficultés de tout le monde. Donc, le fait d'avoir des livres qui ne sont pas étiquetés pour vous les 10 ou adaptés à, eh bien, ça reste un livre accessible. Et c'est l'accessibilité qui me motive, effectivement.
Et donc, avant, il n'y avait pas assez... Enfin... 30% des dyslexiques, les livres étaient pas du... enfin, ça n'existait pas, les livres accessibles
En fait, c'est 30% des 8% de la population détectée qui ne lisent pas la police de Boer.
D'accord.
Donc, en fait, il y a une police d'écriture qui s'appelle OpenDIS ou police de Boer, hein, qui est une police d'écriture qui est lestée, c'est-à-dire que les lettres sont un peu plus grasses sur le bas. Et donc, ça a été considéré comme quelque chose de révolutionnaire, comme quoi ça allait aider tous les dyslexiques. Sauf que non, ça n'aide qu'une partie des dyslexiques. Donc, ce n'est pas la solution. En fait, il n'y a pas une solution, il y a plein de propositions qui vont faire qu'on va tous pouvoir accéder à la lecture de façon différente.
À sa création, la maison d'édition ne proposait que des livres pour enfants, puis pour la jeunesse, et maintenant vous proposez même des livres pour les adultes et des livres bilingues, donc pour les allophones notamment. Vous avez un public de plus en plus large finalement. Est-ce que c'est la volonté de rendre toujours plus accessible et au plus grand nombre la lecture ?
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, on voit bien, hein, on est pluriel, donc on a... plusieurs populations qui nous rejoignent aussi. Et quand on apprend une langue, c'est toujours très compliqué de s'immerger. Et d'avoir des livres pour les enfants, c'est toujours plus simple au départ. Et du coup, c'était vraiment cette volonté par rapport aux allophones de rendre accessible l'ouvrage. Mais après, effectivement, comme je vous le disais, quand on a 50 ans et qu'on est passé à travers les mailles du filet du détectage, eh ben, c'est un peu compliqué. Donc, on va se rendre compte sur le tard qu'on a des difficultés et pas forcément aller vers le livre. Le fait qu'il y ait des livres en lecture accessible ou adaptée va permettre à certaines personnes d'avoir accès au livre plus tard que quand on est jeune. Donc oui, je voudrais être accessible à tous.
Et est-ce que vous souhaitez aller plus loin, par exemple proposer davantage des livres pour adultes ? J'ai vu que vous n'en aviez qu'un, il me semble.
Alors pour l'instant, il n'y en avait qu'un, c'est Crampouès, qui est pour ados adultes, qui est fantastique. Il y a un second qui vient de sortir, qui s'appelle L'espoir en bandoulière, qui est à partir de 12 ans, mais pour tout le monde, puisqu'on arrive sur les 80 ans des bombardements de Nantes. Et donc, cette histoire retrace justement ce qui s'est passé entre 39 et 45, et plus précisément sur 1943. Donc, ce livre est pour les 112 ans. Voilà, pour qu'on s'en rappelle tous. Et puis, celui à venir, c'est une duologie qui sera des romances fantastiques contemporaines et qui arrive à partir du mois de juin.
Vos livres bénéficient donc du label Lecture Confortable. Expliquez-nous comment ça se présente, un livre confortable et accessible. Vous nous avez parlé de la police. Est-ce que c'est surtout de la mise en page particulière ou est-ce que ça passe par autre chose ?
Alors moi, je ne pratique pas la police de Boer. Je pratique une autre police d'écriture qui est un mixte de plein d'embûches que l'on rencontre quand on est dyslexique et qu'on a justement modifié. Donc la police d'écriture, elle va être très ronde. Les A ont repris un ventre. On n'est pas sur un A type arrobase qui va tourner et devenir un E. Les I ont repris une tête, un pied. Donc voilà, cette police d'écriture, elle est un peu particulière dans ce sens. Autrement, il y a des doubles espaces entre les mots, des doubles interlignes, ce qui va empêcher le lecteur de tricoter, c'est-à-dire d'aller chercher un mot sur la ligne du haut, sur la ligne du bas. Le double espace, ça va permettre de bien scinder les mots et de bien différencier la fin d'un premier mot du début du deuxième. Et donc, le travail est déjà fait au niveau de la vue, le cerveau enregistre et on n'a pas d'effort supplémentaire à produire. C'est en ça que c'est confortable. Et puis après, sur certains ouvrages, vous allez avoir les mots qui indiquent une couleur, qui seront dans la couleur indiquée. Donc ça aussi, c'est plein de moyens mnémotechniques, visuels pour repérer. La première de majuscule est en gras et en couleur, et la dernière de ponctuation aussi. Donc tout ça, ça va être ce qu'on appelle des repères visio-spatiaux. Et donc on va pouvoir vraiment bien voir le début, la fin de la phrase, donc l'effort à faire, jusqu'où on doit le faire. Et puis aussi, si quelqu'un a des difficultés d'attention, eh bien... ça sert de repère. Donc la première lettre en gras va permettre de pouvoir se repérer quand l'attention est détournée et se repositionner sur la page.
Plus que d'éditer ces livres, vous réalisez des actions de sensibilisation et des actions culturelles également. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces actions? J'ai vu que notamment vous, vous organisez des cafés 10.
Oui, j'interviens dans les librairies, dans les bibliothèques, dans les écoles. Voilà, tout endroit où on peut m'inviter pour expliquer ce qu'est la dyslexie, pour expliquer aussi comment on peut aider les gens. Là, je suis allée à l'IFSI, donc j'ai formé aussi 300 futurs élèves infirmières. Voilà. Et les cafés 10, ça permet aussi de comprendre qu'on est tous différents, mais dans la normalité ou normaux dans la différence. Voilà, choisissez votre camp.
Et donc, vous allez aussi, comme vous venez de le dire, dans des écoles à la rencontre d'élèves pour leur présenter comment on fabrique un livre ou simplement leur parler de lecture. Est-ce que ces échanges sont intéressants? Est-ce que vous avez appris des choses par rapport, par exemple, sur le rapport des enfants à la lecture ou d'autres enseignements que vous pourrez nous partager?
Ah bah les enfants, de toute façon, ils sont fabuleux, ils savent déjà tout. Nous, on arrive, on n'a plus rien à leur apprendre, ils nous confirment juste ce qu'on sait. Non, en soi, c'est intéressant parce que... leur montrer qu'on est tous différents et en même temps tous dans la normalité, ça leur permet aussi d'éviter le harcèlement et de pointer du doigt quand il va se passer quelque chose. Et eux, ils sont bienveillants, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est en grandissant qu'on devient moins sympa.
Parlons un peu de l'événement de ce week-end où vous serez du coup présent. C'est le festival Demain au Solilab. Et à l'occasion de cette fête du réemploi solidaire, vous proposez tout comme 9 autres maisons d'édition locale une braderie de livres. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça?
Oui, c'est Mobilis qui dirige ce mouvement-là. Nous, notre collectif d'éditeurs qui s'appelle le Colibris, donc collectif des éditeurs en Pays de la Loire, nous serons plusieurs à être présents et nous luttons contre le gaspillage et aussi pour montrer qu'on peut éditer intelligemment sans avoir recours au pilon. Donc on est zéro pilon. Voilà, on est tous, on imprime en local, on travaille avec des auteurs locaux bien souvent. Il y a plein de... En fait, on va être là pour expliquer qu'on peut consommer du livre différemment et surtout qu'on peut le faire intelligemment. Et moi, j'ai tendance à dire qu'on fait de l'édition bio en circuit court. Voilà, ça traduit bien. On peut faire du bio, du circuit court sur plein de choses et la culture en fait partie. Et là, c'est ce qu'on veut montrer, en fait. C'est dire, vous pouvez consommer un livre, même si il est un petit peu corné, même si la première de couverture a un petit défaut. Ben, c'est comme les tomates, hein, elle sera bonne, même si elle n'est pas jolie.
Est-ce que vous pouvez nous présenter aussi plus en détail l'événement? Parce qu'il n'y a pas qu'une braderie de livres, il y a plein d'autres... Vente d'objets de seconde main, par exemple?
Oui, alors moi, j'ai lu un petit peu le programme. C'est vrai qu'on s'est plus concentré sur les livres, mais vous pouvez venir aussi avec quelque chose et troquer sur place. Vous pouvez consommer sur place. Vous pouvez échanger vos vêtements sur place. Enfin, il va se passer plein de choses. Et puis, il y a aussi des ateliers pour vous expliquer comment modifier un vêtement, comment recycler d'autres choses et surtout récupérer et ne pas jeter ou réparer et ne pas jeter.
Et si des auditeurs sont intéressés pour acheter un livre Zétoulu, où est-ce qu'ils peuvent en acheter?
Alors, dans les librairies, sur le site internet, donc de ZTL. Comme ça, vous allez directement à la source. Et ça, c'est chouette, ça aide tout le monde. Et puis après, eh bien, vous pouvez nous retrouver ce week-end si vous n'avez pas peur des défraîchis et des petits livres abîmés. Vous pouvez nous retrouver aussi sur le Solilab.
Super, je vous remercie Sandra. C'était donc Sandra Todorovic, la fondatrice des éditions Zétoulu, qui propose des livres accessibles et confortables. La maison d'édition sera présente ce week-end, le 1er et 2 avril, au Festival de réemploi solidaire demain, au Solilab, pour une braderie de livres.
Merci Chloé, merci Sandra Todorovic d'être venue dans l'émission, de partager cette belle initiative que je trouve super chouette, c'est trop mignon. Après la lecture, on prend la direction de la musique avec ce petit interlude musical. On écoute Coucou Chloé et son titre Nobody, avant de retrouver la chronique d'Elena, La Vida Locale. Take a bitch. Then you got all my history, all my phone. Now everybody's gonna take a hit. C'était Nobody de Coucou Chloé. Et chose promise, chose due, on retrouve Elena et sa chronique La Vida Locale.
La Vida Locale.
Et oui, c'est reparti pour un épisode de La Vida Locale, une chronique à base de micro-trottoirs où j'essaye d'en savoir plus sur la philosophie des Nantaises et des Nantais et d'en apprendre un peu plus sur leur quotidien. Et cette semaine, je me suis de nouveau questionnée sur l'idée de sortir de sa zone de confort. C'est un thème qui m'intrigue beaucoup. Je pense qu'on a tous grandi avec des modèles de héros courageux qui affrontent l'inconnu. De Peter Pan à Candide de Voltaire, le message est clair. Vivre de nouvelles choses est valorisant et valorisé. Harry Potter, par exemple, il s'en va vivre dans un univers magique totalement inhabituel. Vous allez me dire en même temps pour Harry Potter, entre ça et son placard pourri sous l'escalier chez une famille qu'il maltraite, le choix est vite vu. Pas besoin d'être Einstein pour savoir qu'il valait mieux se tirer. Mais je pense aussi au Hobbit de Tolkien. Ces créatures amoureuses du confort, qui vivent dans des maisons chaleureuses et considèrent les aventures comme des affaires dangereuses, qui mettent en retard pour le dîner. Bilbon disait même que « si tu ne retiens pas tes pieds, Dieu sait jusqu'où tu pourrais être emporté ». Mais on sait bien pourtant que dans la saga du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, les personnages finissent tous par vivre une formidable épopée. Pour ma part, la stabilité et le confort ne m'attirent pas des masses et je succombe souvent à l'appel de la vida loca. En effet, l'ennui me pousse à faire des choses un peu surprenantes. Comme par exemple, participer à une course en stop grâce à la Mad Jack. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici. C'est un événement qui prône l'aventure locale en voyageant en France, justement. Une sorte de version terroir de Pékin Express. Et je suis donc rendue en stop dans un village dans la Creuse, en faisant donc 9 heures de route dans 12 voitures différentes. Et je dois avouer que c'était très fun, fatigant certes, mais très fun. Et je me suis demandé si les Nantaises et les Nantais avaient eux aussi des anecdotes sur leur sortie de zone de confort.
Bien, la dernière fois que je suis sorti de ma zone de confort, j'ai commencé à m'inscrire à des, en tant que bénévole à pas mal d'associations en fait. J'ai été bénévole notamment au Goût électronique. C'est la première fois que je participe à des événements comme ça de musique et tout. Et de la même façon, là, plus récemment, vraiment la dernière fois en date, c'était à Université, au 14A. Et vraiment, je me demandais si je pouvais partir vers ce monde-là. Et bah, du coup, ce monde-là m'a accueilli les bras ouverts, en mode genre, on a besoin de bras de toute façon, donc let's go. Et je suis arrivé. Et en fait, c'est assez pertinent en fait, de pouvoir tester des choses. Genre, pas tout m'a plu. Il n'y a pas tout qui m'a plu là-dedans, mais pour autant, bah, je me sentais bien à faire des trucs avec des gens. Et je pense que c'était ça le plus important.
En fait, depuis que je suis arrivé à Nantes, je suis un peu allé à l'extrême, c'est-à-dire que je suis allé à Rennes. Et Rennes, c'est un peu le meilleur quartier de Nantes. Ça pourrait vexer tous les Rennais et tous les Nantais et tous les Rennaises et toutes les Nantaises. Disons qu'on a la facilité d'aller dans les milieux antifa quand on arrive à Nantes. Et quand on va un peu plus loin, on pousse dans les milieux féministes et les milieux LGBT. Et c'est ça, les choses nouvelles que tout le monde devrait faire dans nos sociétés aujourd'hui. Les gens qu'on traite de wokistes, en général. Nous, en général.
La dernière fois que j'ai fait une nouvelle expérience, bah, ça va être ce soir. Voilà. Je vais sortir en boîte toute seule. C'est pas du tout quelque chose que... Bon, j'ai l'habitude de faire parce que je ne l'ai jamais fait. Je suis très à l'aise de faire beaucoup de choses toute seule. Je vais même voyager toute seule. Je vais partir en Corée dans 10 jours toute seule. J'ai trop hâte. Mais ça, j'ai un peu l'habitude de faire. Et je trouve souvent que quand tu fais des choses toute seule, en fait, c'est là où tu rencontres le plus du monde et les gens intéressants. C'est samedi soir. J'ai envie de me défouler un petit peu. Voilà, j'ai envie de m'écouter et pas faire en fonction des autres. Et du coup, je vais sortir au macadam toute seule. Voir comment ça se passe. Soit ça va être génial, la meilleure soirée de ma vie, soit ça va être horrible, je vais juste rentrer et c'est pas grave, demain c'est une nouvelle journée. Ah, donc je peux vous en dire plus demain,
ouais, c'est ça.
Voilà, ou au prochain épisode.
Exactement, on espère te retrouver.
Et on pourrait conclure
cette chronique, en accusant la société de consommation, et oui, encore elle, qui nous pousse toujours à ne pas rester satisfait et à en vouloir toujours plus. Selon une étude de Yale, le fait de sortir de son confort nous permettrait d'ailleurs d'apprendre, et il est donc judicieux d'insérer des instabilités stratégiques dans sa vie. Mais est-il vraiment toujours bénéfique d'expérimenter de nouvelles choses ? En tout cas, j'ai l'impression que c'est justement quand on a été privé pendant un temps de son confort que l'on l'apprécie le plus. La vie d'Aloca, c'est super, mais la vie dans le sofa, c'est important aussi. Il faut savoir retourner sur son canapé de paix intérieure. Et sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de La Vida Locale.
Merci Elena pour ta super chronique La Vida Locale. À chaque fois, tout le monde a le sourire dans le studio. C'est trop cool. J'ai hâte de te raconter ma prochaine sortie de ma zone de confort.
Avec plaisir.
J'en ai pas en tête là, mais bon, pourquoi pas. Et puis malheureusement, votre émission touche à sa fin. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune. Retrouvez Curiosité dès demain à 18h avec l'émission du jeudi, placée sous le signe de la musique. Tout de suite sur Prune, c'est le Labo des Savoirs qui démarre, l'émission scientifique activatrice de Synapse. Restez à l'écoute et bonne soirée sur Prune.
Curiosité. Du lundi au vendredi de 18h à 19h et en podcast sur prune.net.